Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Sophie Sacnin, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions de l'Observatoire Merci Elisabeth Badinter, un livre dans lequel vous revenez sur son parcours intellectuel, sur l'influence qu'elle a pu exercer depuis son premier essai en 1980. Vous l'avez rencontrée pour lui parler de votre projet. Comment a-t-elle réagi ?
D'abord, nous avons une longue conversation, parce que c'est difficile de rencontrer Elisabeth Badinter et de ne pas avoir de conversation. Elle a réagi de manière, on va dire, étonnée, parce que ça a beau être un personnage public, ce n'est pas nécessairement une personne qui aime qu'on parle d'elle et qui imagine qu'on parle d'elle ou de sa vie. Or, mon propos n'était pas clairement d'entrer dans sa vie intime, ni de dévoiler ou d'enquêter sur des parties caché qu'on n'aurait pas révélé de sa vie, mais plutôt de rendre hommage à ce parcours exceptionnel d'une femme qui influence son époque, qui a influencé des générations, plusieurs générations déjà de femmes, et aussi d'hommes, parce que ça n'est pas qu'une féministe, c'est aussi une universaliste qui inclut l'ensemble des personnes auxquelles elle s'adresse. Donc voilà, c'est cet hommage que moi je souhaite lui rendre à travers ce livre et qu'on est beaucoup à avoir envie de lui faire, sachant qu'aujourd'hui, finalement, dire merci à quelqu'un, c'est quelque chose d'assez rare. Et plutôt que de faire un livre polémique, j'ai souhaité regrouper autour de moi des personnes qui l'ont rencontrée de près, de loin, pas nécessairement des intimes, mais en tout cas de voir comment elle a marqué les esprits à la fois à travers ce qu'elle dit dans ses livres, mais ce qu'elle dit, sa parole, quand elle est à la télé ou à la radio, et la façon dont elle a rencontré les gens à de multiples endroits. En fait, on a tous une histoire avec Elisabeth Badinter, d'une certaine manière. On a en tête... un passage à la télévision, un moment qui nous a émus, une phrase qui nous a marqués, une question qui nous a poussés dans nos retranchements, qui nous a amenés à nous questionner. Et donc c'est ça que j'ai eu envie de retracer à travers mon livre. Et pour tout vous dire, ça a été un grand bonheur de faire ça.
Son mari, Robert Badinter, en tant qu'avocat militant pour l'abolition de la peine de mort, puis en tant que ministre de la Justice d'un gouvernement socialiste, a été une grande figure de la gauche. Mais elle, est-ce qu'elle est de gauche ou de droite, à votre avis ?
Pour moi, elle n'est d'aucune chapelle. C'est ce qui fait sa force. Elle a l'habitude, enfin, elle a eu, à certains moments, elle a dit qu'elle était d'un rose légèrement teinté. Elle était légèrement teintée de rose, pardon. Mais je crois que même si son cœur est historiquement à gauche, finalement, par son œuvre, elle s'est détachée du politique, même si elle est en permanence dans le champ du politique, mais sans aller sur ce terrain-là et uniquement sur ce terrain.
En quoi est-elle une féministe, peut-être singulière d'ailleurs, par rapport à ce que sont la plupart des féministes aujourd'hui ? Elle a beaucoup écrit sur les relations hommes-femmes, mais pour elle, les hommes et les femmes se ressemblent beaucoup.
Oui, parce que ce sont des humains, et avant tout, ce sont des humains, Alors, elle est singulière parce que, justement, elle construit un féminisme qui n'est pas excluant. Ça n'est pas un féminisme qui se fait sur le dos des hommes. C'est un féminisme qui se fait avec les hommes parce que, bien évidemment, quand on doit faire avancer des causes, l'histoire montre que les hommes ont très souvent été au pouvoir et que si certains hommes n'avaient pas bougé, les femmes n'auraient pas réussi à conquérir un certain nombre de leurs droits. Donc, elle est sur ce terrain-là et elle persiste sur ce terrain avec un exercice, on va dire, de son intelligence qui est magnifique parce que elle observe le monde et elle observe les gens, elle aime raconter ça d'ailleurs, comment finalement tous ses écrits sont nés de ses observations du monde et elle raconte comment elle aime être à la terrasse d'un café et regarder des gens passer pour les observer vivre. C'est ce côté anthropologue qui ressort.
Mais plus particulièrement sur le féminisme, elle travaille beaucoup sur la dichotomie nature-culture. Mm-hmm. Et pour elle, il n'y a pas de nature spécifiquement féminine.
Alors, il n'y en a pas. Elle dit qu'elle existe, bien évidemment. Elle ne la nie pas totalement, mais elle est très peu sur le biologique. C'est d'ailleurs ce que beaucoup de personne ne lui reproché dans sa théorie, mais elle est effectivement plus sur la logique de l'acquisition et de l'environnement culturel pour analyser les choses.
La question de la maternité présente dans toute son œuvre. L'instinct maternel, pour elle, n'existe pas. Pourquoi c'est fondamental pour elle ?
Je pense que c'est sa manière à elle de déconstruire, d'aller déconstruire les mythes hein, qui nous collent à la peau et qui nous collent au basque depuis si longtemps et qui, justement, ont bougé depuis qu'elle a sorti ce livre en 1980. C'était absolument pionnier à l'époque. Hein. Elle a fait couler beaucoup d'encre. En sortant ce livre, elle déculpabilise les femmes qui n'ont pas envie d'enfants, qui n'ont pas de désir d'enfants ou qui ont des enfants mais qui ne les aiment pas immédiatement. Bref, elle a libéré une génération entière de femmes et elle continue de le faire parce que j'ai rencontré des jeunes femmes de 30 ans, 35 ans qui ont lu son livre et qui, en lisant son livre, se sont dit « bah effectivement, j'ai le droit » de ne pas avoir de désir d'enfant ou de ne pas être une mère parfaite immédiatement. Donc ce côté déculpabilisant qui dit qu'on a finalement le droit et le choix, ce qui est toujours dans sa philosophie, dans son approche en tout cas existentielle, hein, on a toujours le choix de faire un certain nombre de choses. C'est la responsabilité humaine qui est en jeu et il est de notre responsabilité de faire des choix de vie, de faire des choix de position, etc.
C'est ce qu'elle aime beaucoup dans le 18e siècle d'ailleurs, hein, puisque c'est l'idée de responsabilité qui est une idée forte du 18e. Vous le dites vous-même dans votre livre, Sophie Sacknin, on a tous notre part de liberté, de choix, de responsabilité individuelle.
Et on aimerait bien qu'elle soit un peu plus exercée, cette responsabilité individuelle aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire que tous les sujets qu'aborde Elisabeth Badinter, ils nous permettent de nous réinterroger sur nos choix, notre responsabilité individuelle, mais aussi collective. Et c'est ce qui est fort chez elle, c'est que loin de l'identité, elle cherche en permanence à recréer du nous, à recréer du collectif et à s'inscrire dans un mouvement collectif. Quelque chose qui nous manque cruellement aujourd'hui.
On fait une pause, on y revient tout de suite.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec Sophie Sacknin qui vient de publier aux éditions de l'Observatoire « Merci Elisabeth Badinter ». Arrêtons-nous un peu, un instant, sur sa passion pour le 18e siècle, le siècle des Lumières à Elisabeth Badinter. Vous la citez à un moment, elle dit « J'aime le 18e siècle parce que c'est le moment où le « nous » se constitue pour faire entrer dans l'humanité des gens qui n'y étaient pas. Cette notion de citoyenneté abstraite qui permet de nous réunir tous, d'effacer les particularisme, de les laisser à la porte, c'est quelque chose qui me semble fort et réconfortant. Ce serait de là que vient tout son intérêt pour le 18e siècle, à votre avis ?
C'est de là, et c'est aussi là qu'elle va puiser ses réflexions sur notre société. C'est le 18e et quelque part un peu un miroir, hein, et la force dans laquelle venait jusqu'à une certaine époque puiser le 20e siècle pour se construire. Et c'est aujourd'hui ça qu'on voit petit à petit s'effilocher. Elle va chercher cette force dans le 18e. Elle dit d'ailleurs, à de nombreuses reprises, elle confie que quand elle en a marre de ce qui se passe dans l'actualité, quand elle en a assez de bruit du monde, elle s'isole, elle court dans les bibliothèques, dans les archives, et elle retourne dans le 18e, qui est un endroit pour elle de plaisir, de délectation intellectuelle, on va dire, de véritable, délectation, je crois que c'est le mot.
Oui, parce qu'elle insiste beaucoup sur, au 18e, c'est l'acné, la liberté politique, la liberté de conscience, la liberté de penser, c'est ce qui s'oppose pour elle à la bien-pensance d'aujourd'hui.
C'est ça. L'un des personnages qui incarne le mieux dans son panthéon, elle n'aimerait pas qu'on dise ça, mais dans son panthéon de personnages, c'est Condorcet, qui est pour elle l'incarnation absolue du défenseur des libertés féminines, des libertés des Noirs, des Juifs, des protestants, et donc qui incarne justement cette inclusion de l'ensemble de l'humanité dans un tout qui est un nous.
Et quelle est sa conception de la laïcité alors à Elisabeth Badinter ? Parce que c'est souvent sur ce terrain qu'on est venu la défier.
Alors, je ne me permettrai pas de parler à sa place sur le sujet, parce que ça serait m'emmener sur un terrain qui est...
Mais vous qui avez écouté, relu...
Oui,
vous y voyez une cohérence.
J'y vois une énorme cohérence, d'autant qu'elle est la gardienne du temple, d'une certaine manière, et c'est, pour moi, c'est une lanceuse d'alerte, hein, de la première heure. Quand on pense à sa réaction en 89 pendant l'affaire de Creil, où elle publie ce manifeste absolument extraordinaire d'actualité encore aujourd'hui.
Avec Régis Debray et Alain Finkielkraut.
Et Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay et Catherine Kinsler. Il y avait trois femmes quand même. Et j'ai d'ailleurs repris un morceau de ce texte qui est d'une actualité absolument brûlante. C'est-à-dire qu'elle a vu, d'une certaine manière, avant tout le monde, ce qui se jouait en 89. Elle est pionnière, son regard sur le monde est absolument, non seulement juste, mais d'une acuité rare.
Au fond, faire de sa religion son identité, ce que vous laissiez entendre tout à l'heure, c'est quelque chose qu'elle trouve nouveau à ce moment-là en France et dangereux. Hein. C'est ce qu'elle voit tout de suite.
C'est ce qu'elle voit tout de suite et c'est ce qui n'en finit pas de se produire d'année en année. Même si on a légiféré depuis, même si en 2004, la commission Stasi travaille et produit la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Ça, c'est en 2004, 20 ans après. On est encore sur des problématiques qui se répètent. Et je suis, pour ma part, et c'est d'ailleurs ce qui m'a provoqué aussi l'envie d'écrire ce livre, très inquiète de la faible réaction finalement de l'ensemble des citoyens sur ces sujets-là, comme si on pouvait s'abstraire finalement de ce qui se passe autour de nous.
Vous la citez dans votre livre à plusieurs reprises, Elisabeth Panhinter, quand elle dit par exemple « Lutter contre le racisme est utile et nécessaire, mais on n'a pas à entériner des traditions qui sont contraires à nos valeurs », dit-elle. « La République, la nation ne doit pas se soumettre aux injonctions religieuses ».
Elle est dans l'héritage absolu des Lumières, qui lutte contre l'obscurantisme, et elle est dans la droite ligne du respect de la loi 1905, qui fait de la France un État qui laïque, qui sépare l'Église et l'État. L'Église, c'est chez soi, et l'État, en l'occurrence l'école fait son travail, et c'est un sanctuaire dont on ne doit jamais déroger au risque de perdre la possibilité de cette émancipation par la pensée, par l'apprentissage, par la connaissance et par le travail.
Et c'est quoi l'universalisme d'Elisabeth Baninter pour vous ?
J'ai le sentiment qu'il est tellement chevillé à mon corps par finalement l'éducation que j'ai pu recevoir ou les valeurs que je porte, qu'il y a cette communauté finalement de... Je vais parler de communauté, mais il y a cette communauté, cette famille de valeurs qui fait que je me sens universaliste comme elle. Et chaque individu que je croise, je ne le croise qu'en tant qu'individu et pas parce qu'il appartient ou parce qu'il appartiendrait à telle ou telle communauté. Sa valeur tient à ce qu'il va dire, à ce qu'il va faire et pas à quelle communauté il appartient et qui il croit être en affichant tel ou tel drapeau.
Merci Sophie Sacknin, merci Elisabeth Baninter. C'est le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire.
Merci.